La famille d'Abraham, cinquième bande.
C'est bien, très bien, très bien. Ce qui s'est passé pendant la semaine, alors on va en profiter. Alors, si vous voulez, je vais noter vos questions. Seulement, personne n'a une Bible entière, là, avec vous. C'est quoi, ça? Non, un Tanakh, Bon, ça fait rien. Bien, alors écoutez, c'est ça, un Tanakh, vous pouvez trouver une Bible. Peut-être à l'école Yavné, là.
Ou en bas, à la bibliothèque.
Non, tout est fermé, ils sont en train de nettoyer la maison pour le... l'ambassadeur du Maroc. Bon. Écoutez, on m'a posé une première question, mais je ne retrouvais pas la forme dans laquelle je l'ai dit hier après-midi. Je dis que nous étions en train de parler de la relation entre deux constatations. Il y a un phénomène d'identité spécifique juive, d'une part, et d'autre part, il y a une spécificité très précise pour la halakha, par rapport à la circoncision, que la circoncision doit être faite à 8 jours. Vous vous rappelez de cela? Puisque le texte que nous avons lu dans le Zohar, hier, indique qu'effectivement la relation à la sainteté passe par l'alliance de la circoncision, mais que Ishmaël la connaît aussi, seulement il y a une différence, la circoncision d'Ishmaël n'est pas à 8 jours. Je vous ai dit, c'est un problème très important qui est étudié dans la Kabbalah. Il me semble que peut-être vous avez dû étudier cela, je ne retrouve pas dans ma mémoire si nous avons parlé ensemble à un séminaire quelconque. Mais enfin, ce ne sont pas tellement des choses qui s'étudient en public. Si vous me promettez de ne pas enregistrer, tout à l'heure, on pourra en parler. Mais, et puis non, je me méfie de votre mémoire. Okay. Simplement, il faut se souvenir de cela, que l'efficacité du rite, enfin de l'opération, du fait, de la réalité, de la circoncision, opération dans le sens chirurgical, biologique, est pleine dans la mesure où la circoncision est faite à 8 jours. Lorsqu'il y a un empêchement qui vient de la constitution biologique de l'enfant, alors là, l'Halakha considère que sa fidélité à la communauté fait qu'il profite de cette sainteté de la communauté qui, elle, est celle de la circoncision à 8 jours. Vous savez que il y a 3 mitzvot dans la Torah, parmi les 613 mitzvot de la Torah, il y en a 3 qui sont appelés signes de l'Alliance. Je vous les rappelle, c'est le Shabbat, les Tfilines et la circoncision. Donc c'est que toutes les mitzvot ont une portée par rapport à cette identité spécifique, puisque j'emploie ce terme, d'Israël, qui est du dedans de l'humanité en alliance avec le Créateur, mais en particulier ces 3 mitzvot-là. Et je vous avais raconté à quel point, effectivement, on ne peut pas ne pas remarquer, troisième remarque, si vous voulez, que c'est une des mitzvot que le peuple juif, en tant que collectivité, a gardé avec une fidélité impressionnante. Il y en a 3. Elles sont un peu différentes. C'est le Seder de Pessah, Kippour et la circoncision. Aujourd'hui, de nouveau, depuis la Kabbalah de Safed, on a ajouté comme exhortation, et je devrais dire que ce n'est même pas la peine d'exhorter, ça se trouve ainsi, la fête de Hanouka. Et vous avez remarqué que ces dernières années, à quel point les Lubavitch ont donné une ampleur. Déjà, les lumières du Shabbat depuis la guerre des 6 jours, et Hanouka depuis quelques années. Vous avez remarqué ça? Ça, je vais vous l'expliquer quand même, Hanouka, après. D'ailleurs, c'est lié. La circoncision est à 8 jours, et Hanouka est à 8 jours. Bien. Et alors, à ce propos, j'avais... À la suite peut-être d'une question, je ne me souviens plus. Vous
préciser. La façon dont dans l'occidental perçoit la spiritualité chez les peuples africains. Alors, vous avez suggéré que leur aptitude enfin, à saisir quelque chose du sacré, je ne sais pas si c'était dans la nature, enfin, ça venait peut-être de la circoncision.
Oui, je n'ai pas dit peut-être parce que j'en suis persuadé. J'ai suggéré parce que... Je l'ai dit, ce sont des choses justement que l'occidental ne peut pas percevoir. Enfin, percevoir, si, par sensibilité. Mais c'est un domaine d'expérience dans lequel il ne pénètre pas. Il assiste, il est fasciné par cela. Il y a une participation de l'Africain, de l'Asiatique au monde de la spiritualité et qui semble être fermée pour l'occidental à la suite de l'histoire, d'une longue histoire de la civilisation occidentale. Parce qu'au début, au premier siècle, la civilisation occidentale, l'occidental avait sa propre porte ouverte à la spiritualité, elle s'est fermée. Non, c'est un sujet pour lui-même, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a eu une tradition spirituelle occidentale comme telle, il n'en est resté que la mythologie assez nordique d'ailleurs, qui finalement risque, lorsqu'elle n'est pas vraiment basée sur une expérience spirituelle, de devenir l'imagerie des mythes totalitaires en Occident, et c'est le cas d'ailleurs. Bon, je referme la parenthèse. Au point de vue, je voudrais terminer. Au point de vue historique, il semble bien, ça je vous l'avais signalé à propos d'autres études, il semble bien que lorsque les Templiers ont perdu la maîtrise spirituelle de l'Occident à la suite de la victoire des Jésuites sur les Templiers, que la tradition occidentale s'est arrêtée. Elle s'est occultée et il est resté des traces dans les francs-maçonneries, mais vraiment des traces sous forme de traces. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Alors les francs-maçons se réclament du temple, le temple des Templiers, et avec un symbolisme qui leur est familier à eux, mais qui, pour ceux qui connaissent l'origine de ces catégories ou de ces termes, c'est vraiment dégradé, absolument. Il y a dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie des termes qui renvoient à des rites des chevaliers du temple, et en particulier qui hypertrophie sous forme vraiment caricaturée des termes de la tradition hébraïque. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, maintenant d'ailleurs que l'hébreu commence à être connu, je pense que les francs-maçons eux-mêmes auront à cœur de reviser leur vocabulaire. Alors, un des grades les plus respectables de la franc-maçonnerie, c'est le chevalier kadosh. Alors, pendant des siècles, ce mot de kadosh a été fascinant pour les francs-maçons. Jusqu'au moment où ils s'apercevront que ça veut dire kadosh en hébreu. Je ne sais pas si parmi vous, il y a encore des familles qui s'appellent kadosh ou kadouche. Et c'est le même mot. Mais alors, il y avait autour une espèce d'aura mystique, magique derrière ces mots-là. Eh bien, vous avez une formule d'incantation Altenor. Je ne sais pas si vous avez lu ces choses-là. Altenor. Mazé Altenor, c'est en hébreu le four dans lequel on faisait chauffer le creuset des alchimistes. Le four s'appelle un tanour. Vous connaissez ce mot en hébreu? Tanour. Altenor, le tanour. Alors tout de suite, on rentre dans un monde. Bon. Ça veut dire que cette manière qui restait en Occident de se relier à la vie spirituelle, au monde de la vie spirituelle, est très caricaturée. Tandis que pour l'Africain ou l'Asiatique, ou d'autres ethnies, je pense par exemple aux Indiens, eh bien, c'est pas secondarisé de cette manière, c'est très profond, c'est une expérience à leur manière. Pour nous, elle est païenne, mais c'est une expérience authentique du point de vue du contenu de la spiritualité. Et l'occidental reste en dehors. Comme je vous ai dit, il en est fasciné lorsqu'il la rencontre. Je connais beaucoup d'occidentaux qui sont envoûtés par l'Afrique. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des affaires en Afrique, restez pas trop longtemps chaque fois. Vous risquez d'être pris dans cette fascination. Et l'Afrique, vraiment, pas les hôtels occidentaux dans les grands ports de l'Afrique. Et alors j'avais dit que c'était relié au fait que ces tribus, que ces peuples ont connu la circoncision. Il y a donc un lien entre la circoncision et une certaine manière de connaître la vie spirituelle. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, dans la forme, il faudra reprendre la cassette, je ne me souviens plus des détails.
Justement, j'aurais voulu ajouter, et les spiritualités, il y a deux sortes de spiritualité, justement. Celle issue des goûts qui pratiquent la circoncision.
Absolument.
Et alors, je pense alors aux hindous.
Et justement, eux, non. Les Asiatiques sont incirconcis. Oui. Alors, c'est différent du caractère, disons, tellurique de la spiritualité africaine. La spiritualité africaine, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et ça va très très loin dans le fond des choses. Et un Africain même converti à une religion, ses mythes, comme le christianisme ou l'islam, reste animiste quand même dans le fond, il faut le savoir.
L'Afrique n'a pas de rapport avec Éfer, qui est allé en Afrique et...
Non, non.
Non, pas du tout.
Le mot de Africa existe dans le Talmud, dans les commentaires du Talmud aussi. Afriti, plus exactement.
Est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'humilité dans ces peuples, je ne sais pas, parce que je pense en Asie, par exemple, c'est une sagesse qui veut l'emprise, qui veut un peu l'emprise sur soi, alors que les Africains, c'est peut-être une certaine humilité quand même devant les forces. Je ne sais pas si ce serait là, peut-être la différence.
Je me demande si on dispose des mots exacts pour parler de ça. Il y a certainement des spécialistes qui pourraient en parler, des spécialistes de ce vocabulaire qui pourraient en parler de façon plus directe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un type d'expérience profonde, de communion, pour employer un terme chrétien, avec les forces, je ne veux pas dire du sacré, enfin, disons même du sacré, dont l'occidental n'a aucune idée. Vous savez, les Occidentaux ont beaucoup recherché à retrouver leur propre tradition occidentale ancienne. Et puis, en fait, il semble que la plupart du temps, ils y renoncent. Et puis, ils tentent d'entrer dans les ordres spirituels de type oriental, africain, asiatique. En général, les Européens sont fascinés par le soufisme islamique. Et, à mon sens, cette espèce de complaisance ou de, je ne sais pas comment dire, d'alliance non écrite entre l'Europe et le monde arabe, et il faut en chercher les racines bien au-delà de la politique. Une sorte de fascination de l'Europe vis-à-vis de ce que représente encore dans la tradition sémite l'ethnie arabe dans toutes ses formes. Bon, ça nous éloigne. Donc là, il y aurait une question à poser, c'est attendez, sur le même point. Et je vous la signale, qu'en est-il des femmes, puisque les femmes ne sont pas circoncises, en tout cas pour la tradition juive. Ça m'étonne que vous n'ayez pas posé la question, voyez. Vous y avez pensé. Eh bien, la question a été traitée. Et il y a, c'est dommage, je n'ai pas ma Bible entière ici, je ne peux pas vous donner la référence précise, mais il y a un Tanakh.
Je crois que vous l'avez expliqué, que la femme, c'est parfaite.
Oui, c'est pas le mot que j'aurais dit. Attendez, je voudrais quand même vous donner le verset. Voilà, vous me rappelez mon enfance du Talmud Torah. Ça, c'est des Bibles antédiluviennes. C'est des Bibles dans lesquelles on n'étudie plus depuis qu'il y a les Bibles juives. C'est une édition protestante. Ah, vous savez pas? Et ça m'a fait vraiment des souvenirs de bébé. Lorsque la Tanakh Koresh est apparue en Israël, Ben Gurion a fait une proclamation, il a dit, nous avons écarté de nous la honte de l'Égypte, Kherpat Mitzrayim. On se servait pendant la galoute, sauf dans les communautés qui imprimaient leurs propres Bibles ou les écrivaient à la main, de Bibles éditées par les protestants. Vous ne savez pas ça? La première Bible hébraïque en hébreu, c'est apparue il y a quelques années en Israël, enfin une vingtaine d'années. C'est de très beaux caractères, vous avez dû voir ça. Bon, alors ça se trouve dans le livre de Shmot. Lorsque Moïse quitte Jethro pour retourner en Égypte, et puis il y a une scène extrêmement importante et difficile à comprendre à première lecture, où l'on voit que Moïse est en danger parce qu'il est en voyage et il n'a pas fait circoncire son fils, qui est le fils de Tzipora. Vous vous rappelez de cela? Bon, alors vous retrouvez la référence dans Shemot, et il y a l'expression Hatan Damim la Moulot, prince du sang, la Moulot de celles qui sont circoncis au féminin pluriel, Moulot. Ça signifie que la femme est considérée comme circoncis par nature. Alors c'est aussi à relier au fait que dans la généalogie juive, le fils est le fils de sa mère. Bon, non, je n'ai pas dit le mot parfait parce que ce ne serait pas exact. Mais il y a dans la nature de la femme une adéquation plus grande de nature, de principe, au projet du créateur pour la créature que chez l'homme. Je veux dire le côté masculin de l'homme. Bon. Ça, c'est un thème qui vous est familier, je suppose. Je vous rappelle pour mémoire la manière dont les chassidim kavanisent, comment dire ça en français, mettent la kavana de la bracha qu'on dit le matin. Comment ils arrivent à étudier dans cette école?
Si je peux vous dire encore...
Attendez, j'ai pas fini la phrase. C'est Asani Kirtono. Vous vous rappelez de cela? Il y a une lecture sur une lecture d'humilité pure et simple. La femme dit qu'il m'a fait selon sa volonté, mais les chassidim m'ont mis une kavana extrêmement importante, qui m'a fait selon son projet. C'est-à-dire que l'identité humaine dans le profil féminin est déjà plus proche du projet du créateur que l'identité masculine. Ça peut vous paraître paradoxal. Okay? Et c'est donc relié au fait que les hommes ont à réaliser plus de mitzvot que les femmes. Et c'est relié à cela. Bon, je referme la parenthèse. Alors, je récapitule tout cela. On a donc mis en évidence un lien, une relation. Et je le dis tout de suite, je le répète encore, pour l'occidental, ça apparaît comme une association d'idées délirantes entre deux faits qui apparemment n'auraient pas de rapport, mais qu'on ne peut pas ne pas diagnostiquer comme en tout cas en relation. Il y a une spécificité de l'identité juive dans l'histoire du monde, et au bout de 4000 ans, on ne peut pas la nier. Et puis, même si les juifs ne s'en rendent pas compte, les goïms s'en rendent compte. Et vous savez de quelle manière. Bon. D'autre part, il y a le fait que, dans la tradition juive, le rite de la circoncision, c'est la circoncision à 8 jours. Alors, c'est relié à cela. Alors, de quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Ce sont des études d'un tout autre niveau. Il faut avoir fait beaucoup d'astrologie pour comprendre ça. Alors, comme je ne suis pas compétent en astrologie, escalité, on referme la parenthèse. Bon, ça y est.
Donc, justement, oui. Justement, c'est là-dessus que je voulais...
Oui, la télépathie.
j'ai pensé à quelque chose, même dans l'islam et tout. La circoncision, enfin, dans tous les autres peuples, à part le peuple juif, c'est un rite d'initiation, parce que je crois que ça n'existe pas avant l'âge de raison, avant les 7 ans. Je ne crois pas qu'il y en ait 7 à 6 ans. Je crois que c'est
7-8 ans. Il y a des peuples où c'est 3 ans. Hein. Il y a des peuples où c'est 3 ans. Bon, ils doivent être précoces. Mais... Attendez, laissez-la terminer.
Et alors, j'ai pensé,
oui,
alors c'est une sorte d'initiation pour le petit enfant, pour lui faire comprendre que c'est en vue de sa vie d'homme. Alors que dans la tradition juive, c'est pour ainsi dire, excusez-moi, c'est une sorte de baptême et ça a été ensuite repris. Je me demande si justement si ça déclenche.
Je ne crois pas. Vous savez, le baptême des chrétiens, c'est la tevila. Ça ne correspond pas du tout à la circoncision. La mikvé.
Pour faire entrer le petit enfant dans la communauté, dans le groupe religieux. Je crois que ça doit être unique, parce que ce sont des enfants déjà conscients qu'on initie dans tous les autres peuples du monde, alors que je crois justement que c'est chez les descendants des fils d'Ésaü et d'Isaac, je crois qu'on fait rentrer dans le groupe, dans la...
J'entends bien ce que vous dites, c'est
cohérent. Étant bébé, je crois...
Là, il y a une idée importante, mais je ne crois pas que ça se relie au parallèle que vous faites entre le baptême des chrétiens et la circoncision des enfants.
Est-ce que ça va être circoncis?
Comment?
Et ça va être circoncis?
Non. Disons que c'est un autre problème. Il aurait l'obligation de la circoncision, puisqu'il est fils d'Isaac, mais il a repoussé tous les commandements. Et il a rejeté tous les commandements, donc par le fait même, il s'est mis en dehors de l'alliance d'Abraham. Oui, juste pour savoir. Je crois pas que ce lien que vous établissez va dans ce sens. Les premiers chrétiens ont pris comme rite d'entrée dans la communauté la tevila, qui est le rite de la conversion. Parce que les premiers chrétiens se convertissaient. Alors que le rite de la circoncision, je dirais, c'est l'inverse. C'est parce qu'un enfant est circoncis qu'il peut rentrer dans la communauté, c'est pas l'inverse. C'est pas pour rentrer dans la communauté qu'il est circoncis. Parce que, dans toute façon, je vous signale ce que j'ai dit aussi hier, un enfant est juif par la naissance. C'est pas la circoncision qui le rend juif. La circoncision le fait entrer dans l'alliance d'Abraham, et du point de vue de ce que signifie cette alliance, en vue de la spécificité de l'identité d'une descendance d'Abraham, celle de l'alliance. Vous vous rappelez du texte, ça passe pas par Ishmaël, l'alliance, ça passe par Isaac. Mais c'est une postérité d'Abraham qui a ses bénédictions. Vous vous rappelez de ça? Et alors, en fait, pour répondre à votre dernière remarque, vous avez posé un problème intéressant d'ailleurs. le résultat de la circoncision à 8 jours se fera jour à 13 ans, à l'âge de la puberté. Donc c'est en fait à l'âge de la puberté qu'il y a l'initiation à la majorité de la communauté. C'est au moment où l'enfant est pubère, qui devient adulte dans la tradition juive, qu'il entre dans la communauté en tant que majeur. Je vous avais parlé, je crois, une fois de cela, ça me revient. J'ai remarqué cela. Dans les sociétés occidentales, on accorde la majorité sociale à l'enfant lorsqu'il est capable de porter les armes, lorsqu'il est capable du service militaire, c'est-à-dire de donner la mort. Même pour se défendre, c'est donner la mort. Alors que dans la tradition juive, l'enfant est majeur quand il est capable de donner la vie, quand il est pubère. C'est la raison pour laquelle les filles sont bat mitzvah un an avant, parce que la puberté en général apparaît un an avant les gars. Alors, l'objectif de la mitzvah, de la circoncision à 8 jours, se dévoile au moment de la puberté, à 13 ans. Ne me demandez pas comment, parce que ça veut dire qu'on rentre dans le sujet et puis c'est battu.
Bien.
Oui.
Avec la permission de tout le monde et la vôtre, je voudrais revenir sur un autre, c'est le même thème du séminaire, mais un autre sujet. Dimanche, on a parlé de l'universel humain, et finalement, on a vu qu'il y a eu un essai avec Babel, et ça a échoué, et tout de suite après, il y a eu Terach et il y a eu Abraham. Avec Abraham, ça ne marche pas, avec Yitzhak non plus, parce qu'Abraham et Yaakov, c'est de marcher. Ce que je constate, c'est que Abraham, il était d'abord Abraham après Abraham. Yitzhak, il est toujours resté Yitzhak, de A à Z. Enfin, de Malef Atav, pardon. Et Yaakov, il est et Yaakov et Israël à la fois. C'est-à-dire que, en fait, le seul qui n'a pas changé d'identité, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça ainsi, c'est Yitzhak.
Oui, alors quelle est la question?
Je sais pas si on remarque, c'est tout ce qu'on a.
Ah bon?
Pourquoi il n'a pas changé?
Alors, alors une minute.
Non, la question la question est la suivante, c'est que il a fallu que la tour de Babel, il a fallu avec la tour de Babel, on voit la naissance d'Abraham, c'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu Babel, est-ce que Abraham n'aurait pas peut-être existé, enfin Abraham et Yaakov, en fait, est-ce que c'est le rôle d'Israël en tant que peuple,
bon,
c'est d'être universel, enfin je veux dire d'apporter l'universalité.
De reconstruire l'unité.
Oui, c'est ça, reconstruire, je veux dire.
Oui, à quel point les questions de vocabulaire sont importantes. Oui. Je reprends le vocabulaire de ce que vient de dire David. Et même en hébreu, c'est important, alors, à plus forte raison dans une langue de traduction. Je vais commencer par la fin. Dans tous les cas, on se pose une question qui impliquerait qu'on veut refaire l'histoire à l'envers. Alors, ça reste hypothétique, théorétique, c'est ce qu'on appelle un Hava Amina. Okay. On ne refait jamais l'histoire à l'envers. Mais je vais quand même répondre. Si Babel n'avait pas existé, eh bien, que serait Israël? Eh bien, Israël serait la société, la famille sacerdotale de l'humanité une de Babel. Israël existe comme elle existe dans le récit que nous donne la Torah, parce qu'à Babel, l'unité humaine a éclaté, il faut la reconstruire à travers un Israël qui recommence pratiquement de zéro. Et c'est clair la dernière remarque. Hein. Je vais dire ça un peu sous mode humoristique, parce que c'est une remarque qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai entendu d'ailleurs à l'université il y a très très longtemps. On parlait de Shakespeare à propos de la critique biblique, qu'un des professeurs avait indiqué cela. Vous savez qu'il y a aussi toute une question de savoir si l'œuvre de Shakespeare n'a pas été l'œuvre d'un faussaire. Qu'en réalité, Shakespeare n'aurait pas existé. Alors il aurait été écrit par qui? Par quelqu'un qui s'appelait Shakespeare, tout simplement. Il faut être Shakespeare pour écrire Shakespeare. Et ça m'appelle une histoire de fou. Vous savez que les asiles sont peuplés de gens qui se prennent pour des grands hommes. Il y a énormément de Napoléon dans les asiles, vous savez ça. Bon, il y en a un pour qui c'était vrai, c'était lui. Alors, je referme là. Ça me fait penser toujours à ça. C'est-à-dire, dans les études bibliques, on ne refait pas l'histoire à l'envers. Mais on peut, en hypothèse, en Hava Amina, se rendre compte de quoi il peut s'agir. La deuxième question, c'est que l'identité d'Israël n'apparaît, ne se dévoile qu'au niveau de Jacob lorsqu'il est capable du nom Israël. Ça ne signifie pas qu'elle avait échoué en Abraham, qu'elle avait échoué en Isaac. Elle était en train de se constituer. Parce que c'est clair, je ne peux pas dire qu'Abraham a échoué dans le projet universel, qu'Isaac a échoué. Ils sont les étapes de la constitution de cette identité capable de l'universel, c'est-à-dire Israël. Maintenant, je reviens au début de ta question. La tentative de l'universel à Babel, par exemple, et son échec, vient de ce que, à Babel, il y avait un projet de Babel après la tour de Babel. Hein, tu veux dire l'empire de Babel?
Oui.
Bon, il y avait un projet de reconstituer l'unité humaine, mais qui bascule dans l'impérialisme. Alors que le projet d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël, c'est pas du tout l'impérialisme. C'est pas du tout l'universel à la manière des Malchuyot, à la manière des empires. C'est un projet messianique de l'universel qui n'a rien à voir. Si vous voulez, nous allons parler un peu de cela. Hein. Parce qu'on m'a posé une question pendant le séminaire et j'ai répondu avec une allusion au Sanhédrin et au protocole des sages de Sion. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Voilà. Je reprends ce point de l'analyse. C'est extrêmement frappant. Je crois que nous l'avons déjà étudié, mais ça vaut la peine peut-être de le rééclaircir si la question se pose. C'est extrêmement frappant de voir qu'il semble qu'il y ait une loi sans pratiquement aucune exception. Chaque fois qu'une identité humaine particulière, une parmi les nations, a pris en charge ce projet de reconstruction de l'universel humain, il y a eu échec et ça bascule dans l'impérialisme. Le dernier grand échec, c'est la révolution socialiste. La révolution socialiste, la révolution d'octobre, la révolution marxiste, okay, avait toutes les étapes bolcheviques, etc., avait pour objectif, autrement que l'objectif de la révolution française, mais de la même manière, dans la même foulée, l'universel humain. La formule française étant liberté, égalité et fraternité, la formule marxiste étant la société sans classe, mais enfin, peu importe, c'est ce rêve humain de retrouver l'universel pour résoudre les problèmes de l'homme. Les problèmes de l'homme, fondamentalement, c'est le problème Caïn Abel, finalement. C'est bien clair. Or, on voit bien qu'il n'y a pas d'exception du point de vue de la société qui prend en charge ce rêve. Qu'il y ait eu des individus pour qui ce rêve de l'universel est dans chaque société de ces empires, marxistes y compris, pour qui ce rêve de l'universel était authentiquement de l'universel et pas de l'impérialisme, c'est certain. C'est ce que nous appelons les chassidés ou motarolam, les justes des nations, comme on dit en français. Mais ils sont tels à l'échelle individuelle. La société comme telle va toujours à l'échec. Et la France n'y a pas échappé. Immédiatement après la Révolution française, il y a eu l'Empire français. Et avec un humour du langage énorme, hein, la Révolution française n'a pas instauré l'universel, mais l'impérium français, ou l'impéria, si vous voulez, c'est-à-dire l'Empire français, comme on l'a connu, c'est-à-dire l'impérialisme français, c'est absolument évident. Bien sûr que les soldats de l'an 2 apportaient dans leur giberne, je ne sais plus comment on disait, les encyclopédistes, la philosophie des Lumières, mais les soldats de Napoléon, ils avaient une baïonnette au canon. D'ailleurs, les soldats de l'an 2 aussi. Et donc, lorsqu'on s'interroge sur cette fatalité apparente, et qui apparaît tout de suite dès le premier message à Abraham, avec l'égoïme, ça ne marchera jamais. Je vais susciter de toi une société telle qu'elle sera bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais c'est déjà dès l'origine que c'est annoncé. Ça veut dire que le jugement de Dieu sur l'histoire de cette tentative de reconstruction de l'unité humaine est un jugement qui, a priori, semble-t-il, est un jugement d'échec. Alors d'où cela vient? Alors l'explication que je vous propose, qui vient de la Kabbalah, est la suivante. Chaque nation a emporté un aspect du génie humain. Le rêve, c'est vraiment l'homme universel. Mais l'homme concret qui rêve à cela, c'est un homme très partiel. Il est ou français, ou suédois, ou corse, ou yéménite. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas se réaliser, bien que le rêve est authentique. Ça veut dire que le véhicule de réalisation de cet idéal empêche l'idéal de se réaliser au niveau de l'universel et le contraint à devenir impérialiste. Alors, à l'échelle individuelle, dans chacune de ces sociétés, à tour de rôle, chez les Grecs, chez les Perses, partout, il y a certainement eu, et nous en connaissons dans le monde contemporain chez les Goïbes, à l'échelle individuelle, des idéalistes de cet idéal. Et l'idéal est authentique. Mais la réalisation pratique, la praxis de cela, aboutit à l'échec. Et le dernier exemple, qui est l'exemple du marxisme, le montre bien. Le rêve marxiste a abouti à l'impérialisme soviétique. Et il y a des sociétés marxistes non russes ont essayé de réagir, Mais chaque fois qu'elles prennent le pouvoir pour elles-mêmes, ça recommence. Chez elles. Est-ce que c'est bien clair? Il y a eu une intuition assez extraordinaire de De Gaulle. Avant le schisme entre les Chinois et les Russes, il l'a prédit, il a prévu qu'il y aurait un heurt des nations. Je ne sais pas s'il a dit des nationalités, il a dit des nations. Et c'est arrivé quelques années après. Il l'a vu à l'avance. Que l'impérial... Pardon. Que l'impérialisme chinois allait se dresser contre l'impérialisme soviétique, russe. Voilà, cette première règle n'a aucune exception. Et je continue. Chaque fois, les juifs, les hébreux, les juifs qui assistent à l'émergence de tels mouvements universalistes sont fascinés par eux. Parce que, en première analyse, ils s'y reconnaissent. C'est ça qu'on cherche, reconstruire l'universel. Alors, comme un papillon fasciné par la flamme, il s'y jette à elle perdue, si j'ose dire. Et puis, ça me rappelle l'analyse de Michel Khalef l'autre soir, pour ceux qui ont insisté. Que lorsque il y a un bouillonnement révolutionnaire, sur la première phase, les juifs s'y reconnaissent. Et ensuite, à la deuxième phase, ceux qu'il faut reconstruire, là, ils ne s'y reconnaissent plus. Quand la révolution devient impérialiste, alors les juifs deviennent trotskistes. Enfin, marginaux, maoïstes, tout ce que vous voulez. Vous avez compris, ça ? Top. Et je crois que, effectivement, c'est aussi un des drames de l'identité juive. Le nombre de consciences juives qui ont été meurtries, mutilées, perdues, écrasées par cela. Chaque fois qu'il y a un élan universaliste, on s'y jette. Et puis on ne pourra jamais s'y reconnaître vraiment, alors on en sort. Mais on en sort meurtri, mutilé. Les juifs qui reviennent de l'expérience universaliste devenue impérialiste cherchent à rentrer dans la communauté juive, mais restent toujours marginaux. Semble-t-il, c'est indélébile. Vous avez remarqué ça? Et la communauté, à Paris en particulier, celle que je connais le mieux, est encombrée de ces marginaux qui se prétendent porte-parole de la Torah, porte-Torah, si j'ose dire. Et la communauté oublie que 10 ans avant, c'était des théoriciens des impérialismes d'universalisme en échec. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas citer de noms parce qu'il faudrait les citer tous et on serait là demain matin. Et c'est très grave, j'en connais énormément, vous savez. Et je sais que leur rêve est authentique, mais que leur véhicule de réalisation intellectuelle y compris est faussé. Il est brisé, il est cassé, irréparable. Comme disait, je ne sais plus quel poète français, des symbolistes, n'y touchez pas, il est brisé. Vous connaissez ce poème, le vase brisé, celui de Prudhomme, c'est un poète français, ça?
Prudhomme,
bon, ça me revient de quand j'étais pas élève à l'école d'Amérique. Oui, c'est un joli poème, qui s'appelle le vase brisé. Et des choses qu'on peut plus raccorder. Parce qu'ils n'ont en général pas l'humilité, en rentrant dans la communauté, d'être celui qui dit Amen. Et il prétend être celui qui dit la bracha. Alors elle est toujours fausse. Vous avez compris ce que je dis? Bien. Il y a encore une règle qui m'a frappé dans cette question. C'est qu'il y a aussi un deuxième principe, apparemment sans aucune excuse. C'est que tous ces tentatives d'universalisme qui se sont succédées dans l'histoire du monde et qui ont tous basculé dans des impérialismes ont théoriquement place pour toute manière d'être homme, sauf pour les juifs. Est-ce que vous comprenez cette règle-là? Et là aussi, il n'y a pas d'exception, sauf pour les juifs. Et je vais me rebrancher à la remarque d'hier soir sur la première question de Emile Weiss. Vous l'avez reconnu, Emile Weiss?
Ouais.
Et quand il a rappelé Clermont-Tonnerre, et qui disait, les juifs, tout en tant qu'individu, c'est des juifs. Tout en tant qu'individu, rien en tant que nation. Vous vous rappelez de ça? Donc même la Révolution française, en ce sens que il y a place pour toute identité humaine, donc pour les juifs aussi, à condition qu'ils soient plus juifs. Vous avez remarqué le problème? Comme si, de façon très instinctive, profonde et inconsciente, après je vous citerai Mein Kampf d'Hitler, ces universalismes devenant impérialisme, savent que l'adversaire, c'est les juifs. L'adversaire, c'est-à-dire la messianité, c'est-à-dire le projet messianique de l'universel. qui est, c'est ou ça, ou l'impérialisme, ou la messianie. Et alors, Mein Kampf disait, Hitler disait dans Mein Kampf, c'est les Juifs ou nous, les Allemands, pour Milan. Et qu'est-ce qu'il y avait avec les Juifs? Et bon, on peut expliquer, comme l'expliquent tous les sociologues, tout ce qu'ils avaient avec les Juifs. Mais il y avait quelque chose de plus. C'est les Juifs ou les Allemands. C'est, au fond, la messianité ou l'impérialisme. Et comme c'est un des impérialismes, tout ce qui touchait à cette messianité juive était envoyé en faux crématoire, chrétien y compris. Vous avez compris comment ça marche, finalement. Tout ce qui se réclamait de ça. Et alors, je vous donne le dernier thème qui a été mis en forme par le Maharal, mais qui est énormément de source depuis l'origine. On traverse quatre grands empires. Et en cinquième étape, c'est le royaume messianique. Alors regardez comment vous devez de la reconnaissance à vos ancêtres d'avoir attendu de vous engendrer dans le temps où nous vivons. Parce qu'on est à la fin du quatrième empire. Alors, le premier empire, c'est Babel. On sort de Babel avec Abraham. Achèvement de la sortie d'Abraham de Kazim, la sortie d'Égypte avec Moïse. Et l'histoire d'Israël commence, comme peuple. Deuxième empire, c'est la Perse. On sort avec Esther et Mardoché. Troisième empire, c'est la Grèce, les Maccabées. Quatrième empire, c'est Rome. Et on sort avec l'État d'Israël. Ça veut dire que, j'ai pas dit que c'est la fin du monde, c'est la fin des empires. Et alors tout ça, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, ça prend du temps. La civilisation romaine arrive à un stade, en convulsion d'agonie, j'en sais rien. Lisez le déclin de l'Occident, il annonce déjà depuis la guerre de 14. Vous connaissez ce livre de Toynbee? Non, c'est bien de Toynbee? Le déclin de l'Occident? Non, c'est pas Toynbee.
Non, je sais pas.
Toynbee est un contemporain, quand même.
Oui, il a écrit son nom de maîtresse, c'était l'histoire.
Oui, mais il dit des choses analogues. Attendez, ça me revient. C'est un auteur allemand qui a écrit pendant la période de la guerre 14-18. C'est Sprenger. Oscar Sprenger. Et il décrit cela à sa manière. Et donc, dans l'ordre de la chronologie, de l'ordre de ces problèmes dans la tradition juive, en particulier kabbaliste, bien, nous sortons du quatrième empire et nous sommes à la veille de ce que la foi juive la plus simple a appelé les temps messianiques, c'est-à-dire à la veille de ce qu'au fond toute l'humanité attend, le passage à l'universel. Si le passage à l'universel ne se réalise pas, l'humanité éclate. Et à quoi est occupé apparemment l'ONU, l'énorme effort de l'ONU au passage à l'universel? Pendant ce temps, les Juifs quittent l'exil et commencent à installer le royaume messianique. Et raccordez-vous à l'analyse d'Armand Bécassis, Ken. Et oui, à quel point c'est clair et en même temps, il faut beaucoup étudier pour que ça soit simple. Il faut étudier beaucoup de choses compliquées pour que ça devienne simple.
Et l'universalisme juif.
Alors j'y arrive.
Ne risque pas.
Non,
j'y arrive. Sur un impérialisme.
J'y arrive. Il y a eu deux tentatives d'universalisme d'Israël qui sont devenues des impérialismes. C'est la chrétienté et l'islam. Le judaïsme n'a jamais été dans ce cas. Essayez d'imaginer qu'est-ce qu'il peut y avoir de sérieux dans ces espèces de catégories, le complot impérialiste des sionistes et des américains. Vous lisez ça dans les journaux. Quand il se passe quelque chose qui ne va pas, en Chine, en Irak, en Alaska, c'est le complot impérialiste des sionistes. Alors comme c'est le complot impérialiste des Américains, il faut dire aussi sionistes et des Américains. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les Juifs, ce monde entier-là? Vous avez remarqué à quel point c'est grotesque. Et alors le monde, quand il cite ça, il met ça entre guillemets, mais il y croit aussi. Parce qu'il vit à Paris, et enfin il vit en France, et il est pris dans cette espèce d'attitude antisémite que tout est entre les mains des Juifs. C'est tellement visible en France, pour le monde, que ça va de soi, que ceux qui disent ça dans le monde entier, c'est vrai. Bon, vous avez compris ce que je vous dis. Chaque fois qu'il y a eu un impérialisme qui avait des problèmes, alors il a accusé les Juifs d'un contre-impérialisme. Vous avez remarqué ça? Okay. Et alors, je décris très rapidement quel est le projet de la messianité opposé opposé à l'impérialisme. Eh bien, c'est exactement dans les termes bibliques, c'est la famille humaine réunifiée, chaque nation ayant sa place dans cette unité reconstruite, c'est-à-dire pas comme dans l'impérialisme, le fait qu'une nation impose sa manière d'être comme modèle aux autres. Okay? Et puis cela, tout cela, toute cette unité, est en son centre, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, la société des prêtres représentée parce que nous avons les juifs et que la Bible appelle Israël. Bon, voilà grosso modo le problème. On m'a posé une question à la fin d'un cours, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais je vous dirai la question, tout au début du séminaire, c'était sur quel sujet. Bon, alors quelqu'un avait dû me dire, donc, vous justifiez le fait que nous devons enseigner la Torah aux nations. C'était relié à ce thème, mais je ne me rappelle plus le sujet précis. J'ai répondu, et c'est dommage que la question n'ait pas été posée en public, j'ai répondu, non, là il y a une grave erreur, nous n'avons pas enseigné la Torah aux nations. Ce que les juifs enseignent aux goïms, qui témoignent ou diffusent de valeurs, tant en leur enseignant la Torah, est mille fois plus important pour l'humanité que si les juifs enseignaient la Torah aux nations. La Torah n'est pas faite pour les goïms. Est-ce que c'est clair tout le monde? Mais les juifs transvasent énormément de valeurs humaines aux goïms avec lesquels ils sont en relation, en existant parmi eux. Il ne s'agit pas du tout de leur enseigner la Torah. Et le témoignage des goïms qui reçoivent cela est très clair. Okay. Nous voulons vivre comme vous, il dit. Mais ils ne pensent pas du tout à la Torah. Ils pensent à la manière juive d'être homme. Et ce que j'appelle moi l'hébreu. Et vous avez compris? Enfin, moi, ce que le texte biblique appelle l'identité hébraïque. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'était pour la question de David. Maintenant, il y a la question du fils de David, la deuxième.
Est-ce que Abraham, enfin, quand il était Abraham et après Abraham, avait autant sa mitzvah de chesed en étant Abraham et Abraham?
Oui. Mais au niveau Abraham, elle était encore pas émergée comme reliée, dirigée vers l'unité des valeurs. Alors, avec Abraham, cette mitzvah de chesed est dirigée vers l'unité des valeurs, alors elle est cachère. T'as compris l'idée? Donc, on a d'ailleurs analysé. Alors, il te restait une deuxième question, c'est la question de Isaac.
Oui, oui.
Eh bien, je crois que nous en avons parlé d'ailleurs à ce séminaire. Il y a, dans l'identité Israël, a priori, deux dimensions. Une de la relation à l'universel, de la vocation à l'universel, et l'autre de sa propre spécificité. Et alors, cette identité des patriarches hébreux est travaillée par ces deux dimensions. Alors, on la voit travailler chez Abraham, travailler chez Jacob, Isaac, lui, et celui des patriarches qui n'est que hébreu. Et c'est pourquoi je vous ai dit, oui, ça me revient, le mérite que nous avons, le droit à Eretz Israël, est surtout basé sur Isaac. En tant qu'Abraham, on pourrait nous dire, bon, ben vous êtes aussi bien au Chesdim. En tant que Jacob, on pourrait nous dire, ben vous êtes aussi bien en Égypte. Isaac. Et c'est par le mérite d'Isaac qu'on peut revenir en Eretz Israël. S'il n'y avait pas le mérite d'Isaac, eh bien, nous serions enfouis dans cette dimension va-et-vient, Jérusalem-Babel, Jérusalem-Babel, Jérusalem-Alexandrie, Alexandrie-Jérusalem. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et
c'est ça? Ah, absolument pas, absolument pas. Je vous cite simplement l'enseignement de la Gada de Pessah. Normalement, nous aurions dû être 400 ans en Égypte, à partir du commencement de la descente de Jacob et de sa famille. L'exil aurait donc duré 190 ans de plus. Et il y a eu des raisons importantes qui ont fait que Moïse accélère, anticipe la sortie d'Égypte de 190 ans. C'est l'accélération des persécutions qui pouvaient mener à l'annulation physique et l'accélération de l'assimilation qui pouvait mener à la destruction spirituelle. Ce thème vous est familier, Ken. Et donc Moïse prend l'initiative de la sortie d'Égypte 190 ans avant la date officielle de la prédiction à Abraham, ta descendance sera esclave 400 ans. Enfin, étrangère 400 ans et devenant esclave parce qu'étrangère. Et en fait, grâce au mérite d'Isaac, ces 400 ans sont comptés depuis la naissance d'Isaac. Alors, c'est clair. Enfin, naissance d'Isaac et la sortie de, et, attendez que je vois comment ça se fait plus. Entre la naissance d'Isaac et la sortie d'Égypte au temps de Moïse, il y a bien 400 ans. Alors c'est ce que dit la Gada de Pessah, chez Akadosh Baruch Hu, Chishev et Taket. Car Dieu a compté la fin. En réalité, il a fixé le commencement des 400 ans, 400 ans avant, la fin nécessaire. Okay. Et c'est 190 ans qui est la valeur numérique du mot Ket. Ket, il a compté la fin, il a compté les 190 ans qui manquaient, et c'est au moment de la naissance d'Isaac que cela commence. Alors voici comment le Midrash rend compte de ce changement de date. Le verset dit à Abraham, « Ki be Yitzhak ikare lecha zara » car c'est en Yitzhak que te sera nommée une postérité. Donc la postérité d'Abraham...